Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous, votre émission le samedi, le dimanche avec les GG de 9h à midi. Nous sommes évidemment en direct, mais vous pouvez nous écouter, vous êtes nombreux à le faire en podcast. N'hésitez pas, après cette émission, à télécharger votre podcast. Déjà, les premiers débats sont déjà en ligne avec notamment Max Verstappen, lui qui a été sacré tôt ce matin à Las Vegas, champion du monde de Formule 1 pour la quatrième fois de suite. On a parlé de l'Olympique de Marseille et de ce match face à Lens, également de Kylian Mbappé. Bref, n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast. 11h45, c'est votre moment les auditeurs, ce sera à vous de jouer. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour, vous venez lui dire en face et vous composez le 32-16. À 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre et vous allez voir, c'est très actu le débat choisi aujourd'hui. Et puis dans quelques instants évidemment, nous allons parler de rugby. Juste un point peut-être avec Arnaud Souk, non pas encore, en tout cas sachez que Clément Noël est toujours en tête du slalom en Autriche, le deuxième slalom de la saison, lui qui a remporté le premier la semaine dernière à Lévis. On va débuter cette nouvelle heure, mais GG si vous le voulez bien, avec cette citation. On cite les grands auteurs évidemment dans les grandes gueules du sport, vous en avez pris l'habitude, donc je vais citer Nicole Kidman qui a dit un jour: l'ambition est un sentiment extrêmement noble, ce qui l'a perverti c'est l'obsession.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le rugby, c'est pas la Star Academy, c'est pas Koh-Lanta non plus. Pour certains, ils ont 80 sélections, 60 sélections, 50 sélections. Ils sont pas là par hasard. Souvent, quand ils arrivent dans le vestiaire, ils sont venus nous chercher le maillot.
On en reparlera, mais mon souhait, c'est qu'il y ait une émulation très très forte. Et plus on aura une émulation très très forte, plus l'équipe de France sera très très forte.
Je possède le pouvoir de connaître le futur.
Et on reprendra peut-être pour les 4 années à venir.
Très bien, nous irons chercher la DeLorean et nous retournerons vers le futur.
Mais il est nécessaire, avec cette vision à 3 ans, de développer les potentiels qui le méritent.
Vers le futur.
Nous, on est tellement heureux de jouer. Il est de jouer, de vivre l'instant présent avec plaisir et de s'aimer très fort.
Trois matchs, trois victoires, le 15 de France est de retour au premier plan après cette tournée d'automne et l'objectif est clair. Désormais, les GG préparer cette équipe à la Coupe du Monde 2027. Au début de sa prise de pouvoir, fin 2019, Fabien Galthié avait fait du Mondial 2023 en France sa priorité. On connaît le résultat et la difficulté à s'en relever. D'autant qu'il y aura trois tournois destination entre-temps. Alors la musique qui fout les jetons, c'est cette question. L'obsession 2027 est-elle une erreur? Oui ou non? Cyril Linette.
Non.
Jérôme Pinault.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Non, pas du tout.
Pascal Duprat.
Non.
J'ai trois noms, j'ai un oui pour une fois. Tu es tout seul, mon cher Jérôme. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, suiveur du 15 de France, Pierre Thévenet. Bonjour Pierre.
Bonjour messieurs, dames.
C'est vrai, je le disais, les Bleus se projettent déjà sur la prochaine Coupe du Monde.
Oui, à un peu plus d'un an après l'échec de 2023, Fabien Galthié a désormais comme objectif final cette Coupe du Monde 2027. Avant le dernier test face à l'Argentine le week-end dernier, il avait déjà la tête à la suite.
Il y a ce match qui est le dernier match de l'année, ce dernier match de la tournée. Et puis il y a une vision à 2025, à ce tournoi, et puis à 2027.
Cette vision, il l'évoque depuis le début du mois de novembre. À son arrivée à la tête des Bleus aux Six Nations 2020, il n'était pas aussi direct, aussi projeté vers un seul événement. La situation n'était pas la même non plus. Galthié parlait de gagner des matchs, redevenir une nation majeure, intégrer le top 3 mondial. En conférence de presse, on sait qu'il aime être un petit peu flou. Il a des belles formules. Il nous a d'ailleurs ressorti sa célèbre flèche du temps après l'Argentine. Mais avec ses joueurs, c'est direct et l'objectif 2027 est clairement affiché. Écoutez cet extrait du documentaire interne de la FFR Destin Mêlé. Il évoque le calendrier à venir.
Nous, on est là. Et ce qui est intéressant, peut-être, c'est de se dire que pendant ces 4 semaines, on peut essayer de regarder aussi là. Là, c'est 3 ans. C'est 3 ans pile, à peu près, avec à peine peu de matchs, 32 matchs, 3 tournois destination et la Coupe du Monde. Donc, l'ambition c'est, sur cette tournée, c'est ça. 3 victoires, bien sûr. Mais elle est aussi vivre ensemble et se projeter sur les 3 années à venir. Est-ce que vous voulez être la première génération à aller chercher le Graal? On a perdu d'un point face aux champions du monde. OK, on prend des leçons, on retient. Est-ce que vous voulez être la première génération à lever la Coupe du Monde? Et c'est la seule question qui compte.
Son capitaine Antoine Dupont, à qui il ne manque finalement que ce titre mondial, est lui aussi sur la même longueur d'onde.
En rugby, c'est toujours le but ultime, reste la Coupe du Monde. La prochaine est en 2027, donc même si ça paraît loin, je pense qu'on a maintenant aussi l'expérience et la maturité pour se dire que tout ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est dans le but d'être le plus performant dans 3 ans. Donc même s'il faut penser à l'objectif du week-end, des échéances à court terme, on sait qu'il y a cette Coupe du Monde qui va arriver.
Galtier veut constituer un groupe de joueurs solides physiquement et mentalement. Sans doute que les petites mises au bon des cadres comme Ficou, Aldrit, Olivon sont d'un côté l'occasion de les challenger avec la nouvelle génération, mais aussi de les préserver et d'utiliser chaque moment de récupération sur ces 3 ans pour arriver en forme en Australie. Certes, il n'a gagné qu'un tournoi sur les 5 qu'il a disputé, et le prochain sera très important dans son mandat, mais Galtier veut surtout réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué et être champion du monde.
Merci Pierre Thévenet, tu restes avec nous pour ce débat. L'obsession 2027 est-elle une erreur? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Non, pas du tout, j'ai entendu. Sarah Pitkovski,
pourquoi non? Pas du tout, parce que quand tu cours après un objectif, la meilleure des préparations, c'est d'avoir une vision, une construction, que celle-ci, que cet objectif se transforme en obsession, me semble pas invraisemblable. Quand on parle de rugby et de l'équipe de France, on parle d'une des meilleures nations au monde, on parle qu'on a le meilleur joueur du monde, et quand tu regardes les nations qui ont été championnes du monde aujourd'hui, il manque nous.
4 ans.
Oui, et l'Irlande.
Ce qui se passe aujourd'hui.
Il manque nous et l'Irlande. Et c'est-à-dire que si on veut être récompensé du potentiel qu'on a aujourd'hui, être obsessionnel me semble être quelque chose de cohérent et de naturel pour aller vers ça.
Pas dans le contexte sportif et plus dans ce monde où tout change très vite.
Oui, mais non, mais tout change très vite. Mais tout change. On parle
32 matchs avant la Coupe du Monde. Tu as des tournois à venir. T'en as gagné qu'un. Gagne déjà ces tournois-là. Et soit, pour moi, le management.
Ça n'empêche pas de les gagner.
Oui, exactement. L'un ne va pas sans l'autre.
Et le danger à mettre un objectif si loin. Évidemment qu'il doit l'avoir, lui et son staff, ça en tête. Mais communiquer dessus et être obsessionnel.
Lui, il ne parle pas d'obsession. C'est nous qui parlons d'obsession. Lui, il parle de vision.
Lui, on sait pourquoi il le fait aussi. Ça permet aussi de faire passer certains messages et de se dire, on a le temps, si ça se passe mal à un moment donné. Nous, c'est 2027. Ça, on la connaît, la stratégie. Il a fait la même pour la dernière Coupe du Monde. Ils sont passés à côté. Enfin, oui. Ok, il perd. Non, il veut être champion du monde.
S'il faisait autrement, ça serait une faute professionnelle. Non, mais
ça serait une faute professionnelle, mais il a aussi le droit, Pascal. Tu as fait du management, tu es manager dans l'âme. Tu as aussi le droit de mettre des étapes, des PP ou des points de passage obligatoires avant ton objectif.
Je prends juste l'exemple. De son staff, il est quand même déjà, dès aujourd'hui, obligé de réfléchir à la constitution de son staff à horizon 2027. Est-ce que les joueurs qui sont aujourd'hui les piliers de l'équipe de France le seront encore dans 3 ans?
Il parle de ces joueurs-là.
Ça participe
réflexion. Il est en train d'étudier.
C'est normal qu'il anticipe. Non,
il dit, on va gagner, on va étudier avec cette génération-là, aller chercher ce Graal.
Est-ce qu'au travers de la tournée d'automne, tu as senti qu'il négligeait cette tournée? Moi, j'ai trouvé l'équipe de France très enthousiaste.
Oui, dans ce rassemblement-là, il explique bien.
Le président de la Fédé, Monsieur Grill, était venu. Jean-Christophe, tu m'arrêtes si je me
trompe. Bien sûr.
Et il disait, Galtier, il a comme obsession de gagner tous les matchs. Donc il a envie de gagner le tournoi. Et il a aussi envie de préparer.
Ça m'a surpris me choque, c'est que tu dois avoir envie de gagner tous les matchs. Et l'un n'empêche pas l'autre.
Qu'est-ce qui te choque? Ces déclarations
à si long terme.
Ouais,
à si long terme. Cyril, tu sais très bien comme moi qu'aujourd'hui, tout peut aller très vite dans les deux sens. Cette génération, et que si tu construis un groupe justement pour pas les perdre, c'est une problématique rugby actuel. Tu dois pas les perdre. Si tu leur parles dans 4 ans, tu perds la moitié des joueurs.
Ouais, mais il faut pas confondre chez Fabien Galtier sa communication qui est parfois un petit peu difficile à suivre et qui vise aussi souvent un peu à se protéger lui-même.
C'est parachute.
Il faut pas confondre son côté un peu je mets un parachute, sa communication avec son action. Son action, elle consiste quand même plutôt ces derniers temps à élargir le groupe de l'équipe de France. Donc il a bien compris qu'il ne joue pas que le coup d'après, il joue 2027. Moi, je pense que la la Coupe du Monde 2027 doit être une obsession pour le rugby français parce que c'est une anomalie, une anomalie que la France n'ait pas gagné la Coupe du Monde depuis 40 ans. Tous les pays
développent un principe de management.
Tous les grands pays. Rappelons-le, le rugby, c'est pas le foot. Il y a 5 grands pays. On peut rajouter le Pays de Galles et l'Irlande, mais l'Irlande, ça fait 10 ans, et le Pays de Galles, c'est plutôt avant. Mais historiquement, le Pays de Galles, on va dire, a un palmarès au niveau de l'équipe de France. Mais en réalité, t'as les 3 nations de l'hémisphère sud, et t'as la France et l'Angleterre. Tout le monde l'a gagné, sauf nous. Tout le monde l'a gagné, sauf nous. Il faut qu'on y arrive. Il faut vraiment qu'on y arrive. En 2007, on s'est planté.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'imaginer que même s'il a le parachute, même s'il parle de 2027, il a quand même une obsession aussi, c'est de gagner le championnat d'Europe, le tournoi destination. Il est quand même aujourd'hui qu'un seul tournoi.
Il arrive tous les ans et t'as pas l'hémisphère sud.
Il emmène qui avec lui, à part son staff et ses joueurs, en disant nous c'est 2027 personne. Moi il m'emmène pas.
Tu sais pourquoi? Ouais, parce que la particularité du rugby.
Il joue tellement peu de matchs que t'as envie de les voir gagner.
Exactement. C'est justement le temps où il peut avoir les joueurs, où ils peuvent s'entraîner ensemble, vivre ensemble. Ils sont comptés. Il y a que 2 fois par an. Il y a cette tournée d'automne et il y a le tournoi Destination.
Ouais, ils sont largement mis à la disposition des
joueurs. Oui,
on
en a parlé hier. Il y a une tournée au mois de juillet qui sert à rien.
Qui fait ses choix. Hein,
c'est le rassemblement du tournoi Destination.
Mais on parle de récupération, c'est-à-dire de tenir des joueurs de rugby.
Ils sont plutôt bien lotis, les rugbyman français.
Moi, je pense aussi qu'il anticipe. Je pense qu'il anticipe le fait qu'il ne gagnera pas le tournoi l'année prochaine, parce qu'on le sait, le tournoi des années impaires, c'est un déplacement en Irlande et un déplacement en Angleterre, donc on ne gagne jamais le tournoi ces années-là.
Non, mais
à mon avis,
c'est il anticipe, mais oui, c'est
l'année aussi, 2026. Il faut aussi prendre en considération que, en fait, le rugby, c'est pas le foot. Et il peut, lui, il est tranquille. Grill, il va pas le remettre en question. Y compris s'il perd le tournoi.
Bon, les 3 tournois.
Moi, dans le foot,
les 3 tournois. Je suis pas trop d'accord avec vous.
Pour l'instant, il y a une donc, si vous voulez,
et en
même,
plus, il est en contrat jusqu'en 2027. Donc, il sait très bien que s'il échoue à la Coupe du Monde en Océanie, c'est fin du bal pour lui, tout simplement. Donc,
2027, bon, c'est son échéance à lui. Après, moi, je pense que, comme vous le dites, c'est quand même une très grande équipe. On n'est pas là où on devrait être, puisqu'on doit gagner cette Coupe du Monde. En tout cas, depuis quelques temps.
C'est pas des peintres, les autres.
Depuis quelques temps. À la Coupe du Monde, ce sera pas des peintres non plus, a priori. Et depuis quelques temps, on entend, c'est la meilleure génération, cette génération-là, et patati et patata. Moi, ce que je sais, je regarde le palmarès, c'est, pour l'instant, Galtier, un tournoi destination seulement.
Est-ce que vous vous souvenez, et là Pascal je te lance là-dessus, parce que j'abonde quand même dans le sens de Jérôme Pinault, je rentre un petit peu dans ce débat si vous le permettez. En 2021, quand l'équipe de France va mieux, après un début de mandat réussi de Fabien Galtier, on se projette tous sur la Coupe du Monde. Tous, là on va être champion du monde parce que c'est en France. Alors parce que c'est en France, en 98 avec l'équipe de France de foot, c'était un peu passé la même chose avec cette obsession de la Coupe du Monde chez nous.
Non mais on pensait pas qu'on allait la gagner.
Si. Tu parles de quoi? De foot
98,
ou de 98?
Non, on se faisait découper.
Non, mais c'était l'obsession de se dire si un jour on peut être champion du monde, c'est chez nous. Souvenez-vous quand même, avec ce 15 de France, à force d'être obsédés, ils ont été prêts quand, les Bleus? Ils ont été prêts un an avant.
Un an avant.
En 2022. C'est là, ils ont fait une année extraordinaire.
Exceptionnelle.
Tu fais un raccourci.
Et le grand chelem.
Le raccourci. Et moi, je vais en faire un autre de raccourci.
Bah, vas-y.
Qui est beaucoup plus plausible que ce que tu avances.
Bah, si, c'est
pendant la Coupe du Monde.
On va se retrouver alors avec de raccourci.
En France, en 2023. Il y a eu un événement qui a
mais c'est ça, Dupont c'est tout... qui se blesse. Oui, mais ok, d'accord. Mais
justement,
ça,
tu peux me raconter ce que tu veux.
C'est
sûr que
c'est
Dupont,
ce que
il était moins bon une fois qu'il est revenu de sa blessure qu'un an avant. Mais oui, parce qu'il a été blessé pendant la Coupe du Monde et ils ont forcé son retour. Ça a eu un impact sur le résultat.
Mais justement là, tu me donnes un argument à moi quand je te dis que 2027. Mais tu crois est-ce que toi, alors du coup, toi Pascal, tu sais que Dupont avec le rythme qu'il a, le nombre de matchs, le 7, le championnat.
Est-ce que ce sera toujours le même Dupont en 2027?
Oui, parce qu'il aura en pleine maturité.
Comme Mbappé, on savait qu'il allait être là.
Mais surtout,
le meilleur,
ne prenez pas l'exemple de Dupont. Dupont, il fait comme il veut. S'il veut s'arrêter un petit moment, il s'arrête un petit moment parce que son club et la Fédé le gèrent. Ça s'est passé pour le
Jeux Olympiques. À 4 ans, tu me parles de dans un an, ok, d'accord. Tu te promets, il y a 4 années à passer. 4 années. Dans le sport de haut niveau,
mais
dans ce sport
même,
qui est si violent,
quand bien même il y aurait quelques joueurs qui baissent de forme, Et tu penses pas que Galtier il est obligé de d'avoir cette perspective là.
Et c'est pour ça qu'il ouvre aujourd'hui la sélection.
C'est normal qu'il ait la perspective de 2027, c'est la compétition prochaine compétition majeure.
Non mais il manquerait plus qu'il l'ait avec son staff.
Il manquerait plus qu'il nous dise, mais bon, regardons pas 2027, c'est tellement loin, on verra l'année d'avant. Tu rigoles ou quoi?
Non mais là où on s'entend pas, c'est vous avez forcément raison que l'objectif du rugby français, c'est d'être champion du monde et donc c'est de penser à 2027.
C'est
sauf
trop
que
court.
À se mettre
c'est
trop long, pardon. Cette pression autour de cette équipe en disant, et c'est ce que tu disais Cyril, mais ça traduit bien aussi le fonctionnement aussi de aujourd'hui du rugby. C'est une anomalie qu'on soit pas champion du monde. Il faut absolument qu'on soit champion du monde. Est-ce que vous avez pas peur que dans la préparation, il y ait quelque chose qui, souvenez-vous, début janvier, Fabien Galtier, il reprend l'équipe et il dit, moi, il y a 90%, j'ai envie de les amener au mondial. Alors, il a un peu retourné sa veste depuis parce qu'il a vu que.
Mais il avait une vision à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il voulait un groupe et ce groupe-là, ce qu'on appelait le A et le A prime, il voulait que cette équipe-là pour aller en 2023.
Qui nous dit que ça va pas changer dans 6 mois, ça?
Il a vu que ça marchait pas parce qu'il y a eu des blessés, il s'adaptera. Il est en train de s'adapter. Il a vu que son obsession de 2023 avec un groupe et personne d'autre, ça n'a pas fonctionné. Pour preuve, les blessés et il était coincé. Aujourd'hui, il est en train de mourir. Il intègre les champions du monde U20. Donc il a fait évoluer sa réflexion en prévision de quoi? Pas du tournoi destination 2025, pas du tournoi destination 2026, de cette Coupe du Monde 2027. C'est se donner le maximum de joueurs à pouvoir emmener et pallier effectivement les incertitudes que ce sport du rugby et de contact peut amener jusqu'à la veille d'une compétition.
L'environnement autour du rugby est évidemment bien plus doux, l'environnement médiatique, que le foot. Enfin, c'est sans comparaison, le foot, tu perds
un match. C'est d'ailleurs assez incroyable.
Tu perds un match, tu te fais défoncer. Le rugby, tu perds un match, c'est jamais très grave, même la Coupe du Monde. Donc moi, en fait, on répond un peu la même chose, mais différemment. C'est-à-dire, toi, tu dis, il faudrait être plus exigeant sur le palmarès dans le tournoi destination, parce que c'est pas des matchs amicaux, c'est un vrai tournoi.
C'est un championnat d'Europe.
Et nous, on dit, mais il faudrait aussi réparer l'anomalie de 2027. Finalement, on dit tout ça. Les résultats de l'équipe de France devraient être un peu plus conformes à l'image très positive qu'on en a et à la qualité des joueurs. Mais ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu historique. Ça fait quand même, depuis qu'on est revenu des 10 ans terrifiantes qu'on a connues, c'est un peu ce que tout le monde attend. On attend effectivement des résultats plus tangibles pour venir s'adjoindre en fait à la très belle image et la très belle cote de sympathie qu'a l'équipe de France de rugby.
Il faut que la tendance sportive et extra sportive aille dans le même sens quand même pour garder cette belle image qu'a l'équipe de France de rugby.
Comme je l'avais dit, l'extra sportif ça a déjà disparu.
Est-ce que ça va dans bien le rugby côté sportif
et même au-delà de ça
dans le rugby ça
même au-delà de ça vous les
sportifs ça compte pas dans l'opinion publique et médiatique l'extra sportif du rugby. Ça ne compte pas. Ça n'existe pas.
C'est très étonnant.
Ben oui, mais c'est la vie. Ça n'existe pas. Il y a aucune. Le foot, c'est la condescendance. Le rugby, c'est de toute façon un rapport énamouré de toutes les élites. Et c'est les élites qui mènent le jeu, sociologiquement, médiatiquement. Donc les affaires extrasportives dans le rugby, heureusement pour Florian Grill, qui fait entre parenthèses, qui a fait face à des situations très difficiles, elles sont pas si importantes que ça. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est que l'équipe de France traduise en résultat la très bonne image qu'elle a.
Et puis vous les sportifs de haut niveau, la question était aussi de savoir si on peut se projeter aussi loin. Se projeter à 3 ans et garder un même rythme de performance en se disant ah oui mais attention parce que moi c'est dans 3 ans que je dois être prêt, comment on fait pour gérer le quotidien. Il y a Pierre Thévenet qui voulait réagir et après Sébastien nous appelle au 32-16. Pierre.
Non, simplement sur cette idée des 90% de ce groupe que Galtier essaye d'amener le plus loin possible et à cette Coupe du Monde, il est un peu revenu là-dessus cette semaine en disant 80%, ça laisse la place quand même à 8 nouveaux joueurs dans le groupe des 42. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce groupe et de lui permettre d'évoluer ensemble et aussi de se régénérer. Et comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas mettre Aldrit, par exemple, contre l'Argentine, lui, Galtier le dit, c'est pour 2027. C'est l'idée d'utiliser chaque plage de repos et utiliser chaque plage de travail également pour préparer 2027. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'équipe de France ne sera pas compétitive sur le tournoi destination qui arrive dans 2 ans. Elle fait une très bonne tournée d'automne et qui est venue un petit peu, en effet, comme dit Cyril, balayer les événements de cet été et également les très mauvais résultats du dernier tournoi destination. Mais le premier objectif, ça va être ce tournoi destination 2025. Mais c'est vrai que tout ce que va faire Galtier à partir et tout ce qu'il a déjà fait depuis le mois de novembre, c'est vraiment pour préparer cette tournée.
Pardon, mais ce que dit Fabien Galtier, moi je trouve ça absolument incroyable. T'imagines au foot dire non, mais là je repose contre Chypre et Kylian Mbappé parce qu'en fait dans 3 ans
mais
j'ai la Coupe du Monde.
On n'est pas sur la même échelle.
Le sélectionneur repose qu'il y a des Mbappé.
Oui, c'est vrai. Et peut-être pour la Coupe du Monde. Sébastien au 32-16. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Bon, donne-nous ton avis sur ce débat. Est-ce que tu trouves que Jérôme et moi, on marche sur la tête ou non? Quand on écoute Fabien Galthié, c'est difficile à suivre.
Ah non, 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 je pense que vous marchez sur la tête. Moi, je suis tout à fait d'accord pour viser 2027. C'est pas une obsession, c'est un objectif. C'est un objectif très, très bien construit, je trouve, de sa part, parce qu'il envoie des équipes pour sortir quelques pépites l'été. Parce que il sait que sur certains postes,
on risque cet été. Pour les bonnes pépites.
Non, c'était.
Non, oui, je sais, mais je veux pas mettre les affaires dans le milieu. Je veux rester sur le terrain du jeu. On sait qu'il y a certains postes où on est en difficulté. On sait qu'au niveau du pilier droit, il faut absolument qu'on en sorte au moins deux. On sait qu'en deuxième ligne, on n'a pas tant de monde que ça. Donc, il faut vraiment avoir un objectif à long terme. Et puis, les blessures, quoi. On a payé les blessures, il faut du monde. Il faut du monde parce qu'il y aura des blessés en 2027. Donc il faut vraiment construire pour 2027 parce que tous ceux qui sont là, et ils n'y seront pas en 2027. Donc moi, non, au contraire, je suis très content de cet objectif.
Tu sais quoi, Sébastien, je serais très curieux de voir la composition pour le premier match en 2027 versus la composition du 15 de France pour le premier match de cette tournée d'automne là contre le Japon ou contre la Nouvelle-Zélande. Vraiment, je serais très curieux de voir comment on prépare déjà mentalement des joueurs qui auront peut-être évidemment 3 ans de plus, 33, 34 ans.
Pourquoi tu veux traduire l'obsession de Galthié sur le joueur? Parce que c'est la sienne et il prend des décisions, mais qui dit que cette obsession,
j'ai juste peur qu'on soit encore prêt avant,
sur les
qu'on
joueurs.
Soit prêt trop tôt.
Non, mais ça va, voilà. il a quand même
des enseignements de cette période.
Tu les rugbyman Jean-Christophe.
Mais non, mais physiquement, t'as le droit d'être à ton pic de forme, malheureusement. Le but, c'est que tu sois à ton pic de forme au match d'ouverture, et parfois tu l'es un an avant, et c'est dommage.
Justement, il a mis
le cas de la dernière Coupe du Monde.
Justement, il a mis des cadres un peu au repos là.
Voilà.
Pendant la tournée, il a changé sa façon de faire. Okay. Donc il veut gagner tous les matchs maintenant et il essaye de préparer pour la suite.
Alors, tu sais quoi, Sébastien, je vais aller voir mes patrons, pas un dimanche, mais dès demain, je vais aller les voir. J'ai envie d'être en forme pour les prochains Jeux Olympiques. Je vais demander le week-end prochain. Voilà, on va clore ce débat, évidemment.
Ah non, là, c'est de la mauvaise foi.
Oui, c'est dans l'excès, mais ouais. Bon, c'est aussi ça les grandes gueules du sport. Allez, on se retrouve dans quelques instants. 11h29, merci beaucoup, Pierre Thévenet, d'avoir été avec nous sur RMC pour nous parler du 15 de France. On se retrouve pour le débat caché. Vous allez l'adorer, les auditeurs, les GG aussi, j'espère. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, toujours avec Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Cyril Linette, Pascal Duprat. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer, les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour, vous venez lui dire en face et vous composez le 32-16. On vous attend avec beaucoup de bienveillance et un petit peu de castagne, évidemment. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Réagir sur l'émotion, réagir sur l'instant, c'est ce que je vous demande, les GG. Vous n'êtes pas préparés. Le débat caché du jour, c'est très actu. C'était obligatoire, même, dans cette émission. C'est ça.
Voilà, prends le temps de réfléchir, de communiquer. Allez, Fefe, un des meilleurs serveurs, peut-être le meilleur serveur du monde.
Au sommet du Big mondial. Et Alexis Lebrun remporte les WTT Finals. Ils sont numéro 1 mondial.
Ils viennent de vivre une année 2024 complètement dingue après des Jeux Olympiques qui les ont fait passer dans une autre dimension. Les frères Lebrun continuent d'écrire l'histoire du ping français. Hier, Félix et Alexis ont remporté la finale du double des WTT Finals. Nous avons tous appris l'existence de ce tournoi. Bravo à eux. Les voilà à la première place mondiale en double. Une grande première dans l'histoire du tennis de table français. Notre débat. Les frères Lebrun, sont-ils déjà entrés dans l'histoire du sport français? Oui ou non? Cyril Linette.
Oui.
Jérôme Pinault.
Oui.
Pascal Duprat.
Je me dépêche de répondre, oui.
Oui aussi. Sarah Pitkowski.
Ben oui.
Tout le monde dit oui à cette question. Bah. Ok, vous allez me dire pourquoi, vous le pensez désormais. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial au Japon. C'est Léna Marjac. Bonjour Léna.
Salut JC, salut à tous.
C'est vrai que les frères Lebrun, je le disais, viennent de réaliser une performance historique.
Oui, oui. Alors actuellement, ils sont tous les deux dans l'avion, retour en France et ce matin. Et alors, ils se sont peut-être réveillés avec une gueule de bois. Ça a sûrement fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Mais ils se sont surtout réveillés en étant sur le toit du monde. Ils sont les nouveaux numéro 1 mondiaux en double. Et c'est une première dans l'histoire du Pink Tricolore.
C'est incroyable de finir cette année comme ça. D'être numéro 1 mondiaux en double ensemble avec Alex. Et, ouais, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore 2 ans. Et quand on était encore plus petit.
Pour nous, c'est quand même quelque chose d'incroyable d'être devant aussi les Chinois au classement mondial. C'est quelque chose qui nous fait super plaisir de montrer qu'on peut aussi les concurrencer.
Et hier, en finale, face à la paire japonaise Togami Shinozuka, nos Français ont bataillé. Premier set perdu 14-12, puis les deux frères prennent les devants dans les deux manches suivantes. Mais au début de cette finale historique, ce n'était pas un Alexis des grands jours.
Pendant 3 sets, j'ai été un petit peu en dessous du niveau qu'il fallait. Donc Félix, ça m'a bien aidé et ça m'a permis de me remettre dedans et de faire une belle où je pense que j'ai vraiment survolé le set et j'ai joué super bien. Donc.
Une dernière attaque en coup droit d'Alexis et victoire donc 3-7-2. Ils ont pu souffler, exulter et surtout faire cette fameuse célébration tant attendue. Une célébration Kamehameha, référence à Dragon Ball Z.
En fait, c'est celle qu'on voulait faire au premier match, mais qu'on a foiré. Donc on s'est dit, allez, là, cette fois, si on gagne, on la foire pas, quoi. Donc non, on est content de l'avoir réussi.
Je vais apprendre à hésiter à aussi complètement la foirer en faisant exprès de la foirer. Ça nous faisait rire, mais finalement, on s'est dit, non, pour un titre comme ça, il faut quand même la réussir. Donc on s'est appliqué.
Un dernier titre pour clôturer donc une saison tout simplement stratosphérique. Médaille aux Jeux Olympiques, l'argent au championnat du monde par équipe, titre européen et victoire de Félix à Montpellier. Et maintenant, cette première place au classement, Félix est clairement sur son nuage.
On va prendre un peu de temps pour réaliser un peu ce qu'on a fait cette année. Forcément, on a vécu des moments incroyables. Normalement, dans une année, s'il y en a un, on est hyper content. Et nous, on en a eu 5-6.
Et alors, pour les amener sur le toit du monde, il y a un homme qui est derrière tout ça, c'est leur coach, Nathanaël Molin.
Ça boucle la boucle, on peut dire. Là, c'est une année fantastique. Bah voilà, classe de numéro 1 mondial, ça claque quand même, non? Alors, on est revenu de partout avec des victoires, des médailles, des récompenses. On se sent payé à chaque fois et c'est incroyable.
Et des lignes dans l'histoire de leur sport, les frères lunettes, comme on les appelle en Asie, en ont écrit de nombreuses cette année. Mais Félix et Alexis en veulent évidemment plus. Alors leur livre continuera de s'écrire. Ce sera à partir de 2025 avec de beaux objectifs à venir et notamment les championnats du monde en mai prochain.
Et nous en parlerons forcément dans les grandes gueules du sport. Ça y est, le tennis de table a pris sa place, même dans cette émission. Merci beaucoup, Léna Marjac, en direct du Japon. Je précise qu'ils ont mué, hein, les frères Lebrun. C'est juste qu'ils ont certainement trop crié hier avec ces réactions. Est-ce qu'ils sont entrés dans l'histoire du sport français? Il y a des nuances. Quand même, Jérôme Pinault.
Oui, parce que ils sont sur le toit du monde dans leur discipline qui est une discipline. Il n'y a pas beaucoup de licenciés, 220, 230 000 en France, 40 millions dans le monde. Et ils sont numéro un mondiaux face aux Asiatiques.
Ils sont moins de 200 000, largement.
Moins de 200 000.
Ah oui, oui. Et pourtant, ça a déjà bien augmenté, mais ils sont moins de 200 000. Ouais,
donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi comparer. Est sur le toit et dans l'histoire d'un sport. Où finalement, on est toujours dans la légende quand il y a un peu de concurrence quand même. Parce que Patrice Martin, que j'aime, qui est un ami, Patrice est multiple champion du monde. Il est dans l'histoire du sport français en ski nautique. Est-ce que ça fait de lui une légende du sport français? Moi, j'ai envie de dire.
Mais il est entré dans l'histoire du sport français, ouais. Pour le coup.
Donc, ça dépend ce que tu mets dans légende du sport français.
Voilà. Tout à fait.
La légende du sport.
Attends, je parle pas de légende du sport français. Ils sont encore tout jeunes,
Mais il y a l'histoire. Ils sont en train de rentrer dans l'histoire parce que l'histoire est belle aussi. C'est deux mecs, deux frangins nés sur une table de ping-pong, quasiment. Il y a tout un contexte. Et puis, l'éclosion de ces deux gamins-là, elle est aussi dans un contexte médiatico-sportif idéal, puisqu'ils sont sur le devant de la scène et ils brillent et nous font vibrer lors de Jeux Olympiques, qui est la référence dans ce sport. Et chez nous, en France, est-ce que...
Il y a une médaille de bronze qui est géniale, mais il n'y a pas de médaille d'or. Enfin, je veux dire, ils ont crevé l'écran par rapport à ce qu'ils représentent, eux, pas forcément par rapport à leur performance. Que vous comprenez ce que je veux dire?
Si, par rapport à leur performance, parce que comme tu dis, effectivement, le nombre de joueurs de tennis de table dans le monde, elle se réduit à un pays. Et d'ailleurs, pour preuve, ce pays-là, en tout cas, les autres pays européens ont souvent... Oui, la Chine. Enfin, c'est surtout la Chine.
L'Asie, hein.
C'est surtout la Chine. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays européens qui ont, depuis des années, toujours nationalisé des Chinois pour que donner plus de chances. En tout cas, pour pouvoir avoir des médailles et des titres, et parce qu'il n'y avait pas assez de place du côté des Chinois. En Allemagne, il y a eu des Chinois allemands qui ont gagné des titres dans l'histoire du sport, parce qu'en fait, ils n'ont pas attendu les Jeux pour bien jouer. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà gagné. Il était déjà cinquième mondial, Félix, avant les Jeux Olympiques. On en parlait avant, et c'est avant qu'on a commencé à diffuser sur les chaînes Twitch, en tout cas chez nous, du tennis de table. Mais juste pour comprendre,
il y a six mois, il n'est pas dans l'histoire du sport français.
Non, il n'est pas dans l'histoire. Mais quand tu te compares à la Chine aujourd'hui, trouver se glisser dans l'espace très fin de la Chine, c'est remarquable. Plus de 65% de sujets en un an sur le tennis de table qui est associé aux frères Lebrun depuis octobre 2023. Ça date pas juste des Jeux. Cette ascension, elle a été fulgurante parce que on avait des noms chinois qui étaient en train de les concurrencer. Et là, ça s'est concrétisé par des titres.
Non, mais dans l'histoire, quand tu poses la question de l'histoire, bon, c'est toujours un peu hâtif, je trouve, l'histoire, les gens...
Ça dépend quand est-ce qu'on a commencé.
Oui, parce qu'ils sont très jeunes. Mais dans l'histoire du sport français, en tout cas dans l'histoire 2024 du sport français... Ils sont là, et pourtant on a eu les Jeux. Donc on pourra dire 2024, c'était Teddy Riner, c'était Léon Marchand, c'était Antoine Dupont, et c'était les frères Lebrun. Mmh. Ce qui, avec Duping, n'était quand même pas gagné. Ils ont quand même changé, enfin, en tout cas, ils incarnent l'image du tennis de table, l'image du ping en France. Pourquoi ? Parce que, effectivement, bah, ils apportent une fraîcheur, parce qu'ils sont très performants dans tout un tas de disciplines, parce qu'ils sont deux frères, et parce qu'ils ont des looks, quand ils parlent de Dragon Ball et tout, ils ont des looks et un style de leur génération, qui, dans la rue aujourd'hui, à part les footballeurs, et ceux que je viens de citer, Riner, Dupont, Marchand et les footballeurs. Qui peut se faire autant reconnaître dans la rue que les frères Lebrun aujourd'hui quand ils se baladent en France?
D'accord.
Je pense que tout le monde les arrête, tout le monde les accoste. Alors est-ce que leurs années 2025-2026 seront au même niveau? Parce que honnêtement, ils enchaînent, hein, entre les tournois, les résultats, les sollicitations médiatiques, la reconnaissance, ça ne va pas être facile. Mais ils ont vécu une année historique eux-mêmes, qui est une année historique dans le sport français, dont ils seront l'une des trois ou quatre.
Et moi c'est ça qui aujourd'hui, ils rentrent dans l'histoire. En tout cas, ils sont dans leur année. C'est leur année et on doit parler de ces gens-là parce que, en plus de ça, avec leur jeunesse, avec leur look, le côté très médiatique, ils sont devenus encore plus populaires après les Jeux. Ils n'ont pas baissé le pied, quoi. Non. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est numéro un mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont sur la régularité. Ils ont gagné la Coupe du Monde de tennis de table, parce qu'on découvre ce tournoi tous, quasiment.
C'est comme le Masters en tennis, quoi. Ils sont
dans la régularité. En permanence et avec leur jeunesse, et malgré le fait qu'ils soient devenus populaires de ping, on est devenu populaire dans le sport français. Ils n'ont pas lâché l'affaire et ils ont continué à jouer à très haut niveau. Ils se servent beaucoup de leurs résultats sportifs pour être populaires. Moi, c'est ça qui me plaît. Donc, ouais, avec leurs résultats, c'est d'autant plus glorifiant pour eux et c'est pour ça que, oui, ils sont. En tout cas, tu ne peux plus parler de l'histoire du sport français sans parler d'eux.
Oui, parce qu'avant, c'était Jean-Philippe Gassien. Ou Jean-Philippe Gassien.
De l'histoire 2024, en tout cas, d'une grande année pour le
Jacques
sport
Socrétin
français.
Jacques Socrétin aussi avant, mais c'était pas...
Oui, bah alors là, il y en a beaucoup.
Il y a que toi et Christophe Cessieux qui les connaissent.
Voilà, exactement.
Pascal, vas-y.
En plus de leurs performances qui sont remarquables face à un continent qui domine le pong, il y a aussi le fait que ce sont des phénomènes médiatiques, ces deux garçons-là. Oui. Et puis, par rapport à d'autres sports, là, je suis pas trop complètement d'accord avec Cyril, ils tranchent complètement avec l'archétype du footballeur. Par exemple.
Pourquoi pas d'accord, j'ai dit la même chose.
La fraîcheur. Ouais. Moi, je vois pas les deux frères Lebrun arriver à un rassemblement d'équipe de France de ping-pong avec un grillage du visage.
Mais j'ai pas dit le contraire.
Si jamais un jour c'est le cas, non, mais j'arrête de regarder le ping-pong, je vous dis tout de suite.
Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai dit
jouer au ping avec un grillage, c'est chaud.
En termes de notoriété, j'ai simplement dit qu'en termes de notoriété aujourd'hui dans la rue, les sportifs français reconnus, c'est beaucoup de footballeurs.
Ils sont reconnaissables.
Mais bien sûr.
Mais juste pour te redonner la main, c'est vrai que même en parlant de nous, c'est-à-dire que les conférences de rédaction toutes les semaines, maintenant on veut savoir où sont les frères Lebrun, ce qui était inimaginable il y a six mois. Et on envoie à l'autre bout de la planète notre envoyé spécial Léna Marjac au Japon. C'était inimaginable.
Exactement.
Vous m'auriez dit ça il y a six mois, je ne l'aurais absolument pas cru.
Et ça fait hier l'ouverture de tous les journaux d'information.
Est-ce qu'à un moment donné, là je reviens, pardonnez-moi de revenir aussi un petit peu au foot, mais est-ce que tout ce qui se passe autour du foot actuellement, est-ce que cette émergence aurait pu être possible il y a quelques années? Est-ce que là, c'était le terreau propice pour se dire, ah là, on a...
Disons
qu'il y a un peu de place qui est laissée par le foot, parce qu'il est un tantinet insupportable.
Absolument.
Et donc, ces deux jeunes garçons qui incarnent la fraîcheur, la simplicité, l'enthousiasme, qui me semblent être de bons gamins, bien élevés. Ça ne veut pas dire que les footballeurs ne sont pas des bons gamins, attention. Hein. Mais... On, on, on s'identifie davantage à eux. Et puis c'est pas Star System, c'est ça surtout.
Non mais Pascal et moi,
c'est qu'ils répondent aux interviews, ils sont peut-être sensés. Mais... Il raconte pas des conneries. Ça tient debout.
Je voudrais qu'on parle aussi du plan sportif. Il faut aussi comprendre que le double en tennis de table, c'est extrêmement difficile quand tu es deux droitiers ou deux gauchers à jouer. C'est-à-dire qu'on pourrait dire oui, mais ce sont des frères qui se connaissent parfaitement, donc la connivence est évidente. Mais ils ont bossé, mais comme des ânes pour pouvoir être aussi performants tous les deux. Au début, ils pensaient qu'ils allaient jouer les jeux ensemble, mais par le fait des classements, effectivement, pour qu'Alexis puisse jouer, c'était avec Simon Gauzy. Mais ce qu'ils réalisent là sur le plan sportif, en étant deux droitiers, c'est exceptionnel. Et le double au tennis de table est aussi important que le simple, ce qu'il est pas tout à fait quand on parle de tennis. Donc voilà, je voulais aussi le dire que c'est pas juste une histoire d'image, c'est vraiment des travailleurs
ce qui va faire la différence.
C'est extraordinaire, voilà.
Ce qui va faire la différence, en tout cas dans la longueur, dans le temps, c'est qu'ils aient bien sûr encore des résultats et oui, aussi qu'ils soient davantage télévisés. C'est ça l'enjeu.
Il va falloir que ce soit sur les chaînes, monsieur.
Et en tout cas, il faut qu'ils continuent à performer à haut niveau pour qu'on continue à les suivre.
L'équipe RMC. RMC, il y a maintenant un onglet sur l'onglet RMC Sport, il y a un onglet tennis de table. Il n'y a pas encore sur l'équipe. J'ai regardé ce matin, donc il y a un des groupes qui a été plus réactif que l'autre sur ce niveau-là. Mais je pense que pour les deux. Non, mais c'est intéressant de voir. L'équipe va probablement le faire aussi. Comment ça traiter? Non. Moi, je pense que. Et je suis d'accord avec Pascal quand même. On est là pour défendre le foot. Enfin, Pascal et moi, notamment, souvent. Mais le foot est quand même pas totalement défendable ces temps-ci, et ça fait de la place pour d'autres.
Bien sûr.
Ok, en plus on a une analyse tactique de la part de Sarah Pitkowski sur comment
on Sarah, joue
mais tout ça, quand on commence à parler de 4-4-2 au niveau du pong, parce que ça c'est pour reprendre l'expression de Pascal, c'est le ping. Mais vous dites comme vous voulez.
Non mais dans ping-pong, il y a ping, il y a pong aussi. Jean-Christophe, j'ai le droit de me différencier quand même.
C'était une petite vacherie gratuite. Sachez que ce soir, à partir de 19h, Bartoli Time avec les frères Lebrun, en invité exceptionnel. 11h47, on se retrouve dans quelques instants. C'est à vous de jouer les auditeurs et vous êtes nombreux à vouloir interpeller les GG. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h50, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. Restez avec nous à partir de midi, les paris RMC. Évidemment, on vous donnera toutes les meilleures cotes autour de cette 12e journée de Ligue 1. Mais tout de suite, c'est à vous les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Thierry nous appelle au 32-16. Bonjour Thierry.
Salut les GG, bonjour à tous et merci de m'accueillir.
On est très heureux d'être avec toi. Fini les politesses. Tu vas affronter qui ce matin?
Alors je vais affronter Cyril Linette.
Sur quel sujet?
Sur l'utilisation du VAR.
Ok, alors je resitue, c'était à 9h30 ce matin, autour de la rencontre Lens-Marseille, avec cette action à la 85e minute qui pouvait faire 2-2 pour Lens, qui finalement, le VAR qui est intervenu, 1-3-1, qui s'est transformé en 3-1 pour l'Olympique de Marseille. On réécoute juste ce que disait Cyril dans ce débat.
Si le foot m'a toujours procuré plus d'émotions que le rugby, c'est justement pour ça, parce qu'il y avait à la fois moins d'arrêts, moins d'attentes, de décisions très compliquées, et un peu plus d'injustices. De toute façon, il y a toujours des injustices aujourd'hui.
Voilà, résumé en 13 secondes, la pensée de Cyril. Cyril, t'écoute.
Oui.
Eh ben écoute, Cyril, déjà, je suis ravi de voir que tu es un grand romantique, et c'est pour ça qu'on t'aime, on va dire ça. Donc, on va parler des légendes. Donc, la main de Maradona, un but de l'Angleterre qui n'aurait pas dû être accepté. Mais on va aussi parler, dans ce cas-là, des légendes d'un certain France-Allemagne à Séville en 82. S'il y avait eu le VAR, Schumacher a agressé Battiston, on l'aurait vu, il serait sorti et on aurait peut-être, et je pense même certainement, gagné ce match. Donc moi je suis partant du principe que le VAR doit fiabiliser la décision de l'arbitre et doit un petit peu aussi rendre neutre justement la partie émotion. Aujourd'hui, il y a des règles dans le foot. Moi, je suis désolé, mais nul n'est censé ignorer la loi. Une règle, c'est une règle. Et si le VAR contribue au respect des règles, je trouve que c'est un avantage et une avancée. Et puis, ça me permet de me réconcilier avec Pascal. Je me suis un peu fâché contre lui la dernière fois au sujet de Nadal. Et comme je suis plutôt de son avis en général, moi, je suis assez d'accord avec lui.
C'est pas grave, je t'en veux pas.
On s'en veut pas dans cette émission. Et puis tu pourras rappeler pour dire que t'aimes bien Cyril la semaine prochaine, ouais, évidemment.
Bon, voilà. Bon, alors Thierry, moi je suis suffisamment âgé pour avoir connu le France-Allemagne 82. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas si on aurait gagné, mais il est évident que le scénario du match aurait été différent. Est-ce qu'on se souviendrait autant de ce match s'il n'y avait pas eu ce sentiment, cette injustice terrible qui finalement raconte quelque chose, qui raconte que la France à l'époque était un petit pays de foot, en tout cas un pays un peu méprisé par rapport à l'Allemagne, et qu'heureusement le statut de la France a changé. C'est l'histoire du foot que l'on touche, y compris en revenant sur ce type d'injustice. Donc je suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense que ça fait aussi la légende du match, le fait qu'on ne l'ait pas gagné. Après, je n'ai pas dit, et je le redis, que je suis totalement contre la VAR. Et quand tu parles de l'agression de Schumacher, je pense effectivement qu'avoir un arbitre qui voit cette agression et qui puisse s'associer, seconder l'arbitre principal pour le lui signaler n'est évidemment pas une mauvaise chose. Je pense que la VAR est trop utilisée, qu'en France elle est trop utilisée, soit pour protéger les arbitres de leur statut, ce que Pascal a bien décrit, oui, soit pour surarbitrer des choses qui ont été à vitesse réelle jugées par un arbitre compétent et qui, quand on décortique des ralentis qui en plus sont choisis pour bien connaître la télé par des gens dans le car, alors non pas qui sont pour une équipe, mais par un système technique qui n'est pas complètement infaillible, je trouve qu'on s'appesantit sur des choses qui sont parfois de l'ordre effectivement de l'interprétation. Cette interprétation, elle est aux mains de l'arbitre principal, et je trouve que ça n'apporte pas forcément plus de vérité que ça. Et par ailleurs, quand tu es au stade et que tu vis les arrêts de jeu concernant la VAR, d'abord tu sais pas ce qui se passe, donc ça prend du temps. Voilà, je trouve que ça empêche le bonheur simple de célébrer le but de son équipe. Donc je ne suis pas contre, je suis contre sa surutilisation, et je pense que plus le foot, c'est comme la data, les chiffres et tout ça, plus le foot se dirige vers ce côté tout techno, plus il s'éloigne de ses bases populaires et du plaisir enfantin qu'on a à le suivre.
Voilà. Tu as quand même dit que tu étais pour la main de Maradona, et ça je pense que Cyril a bien, oui, l'a, oui, bien, oui, noté, oui, et ça l'a choqué. Alors,
je suis pas pour, elle contribue à la légende, la légende de Maradona, et peut-être que ça contribue aussi à la légende d'une forme de fair play des Anglais, de ne pas à l'époque, mais il y avait la guerre des Malouines, il y avait de ne pas à l'époque en avoir fait des tonnes. Voilà, ça fait partie de l'histoire du foot. Ces histoires de VAR avec un gars dans le camion, un opérateur ralenti qui bouge le truc de 2 cm. Ah, attention, il a hors jeu d'un centimètre et demi. Donc ce but incroyable de machin va être refusé. Je suis désolé, ça m'emmerde.
Tu n'en veux pas, parfait. Eh bien, c'était très clair. Merci Thierry d'avoir
composé le 32-16.
C'est un plaisir de t'accueillir. Et merci de nous souhaiter bonne émission, parce que je vais dire au revoir au GG. Tu vois, c'est terminé. Mais moi, je vais continuer quand même avec les paris RMC. On n'a pas eu le temps de prendre d'autres auditeurs. Il y avait Anthony aussi. On embrasse Anthony. À bientôt dans les GG. Promis, la prochaine fois, tu seras avec nous. 11h55. Merci beaucoup, les GG. Oui, Jérôme Pinot a eu chaud.
Merci.
C'est pour toi, Anthony.
Ouais, je sais.
Merci, Jérôme. Donc, merci, Pascal.
Merci à tous.
Ciao. On se retrouvera samedi prochain à partir de 9h, évidemment, pour les grandes gueules du sport. On vous embrasse. Passez une très, très belle journée. Restez bien à l'écoute. DRN, c'est tout de suite les paris.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.